Apple sort de nouveaux iPad Pro et MacBook Air alors que la planète est confinée. Comment Apple parvient-elle à se fournir par milliers en appareils alors que la plupart des gouvernements peinent à trouver des masques et gels hydroalcooliques? Gros plan sur l'arme secrète de la pomme, sa logistique et comment les États tentent de s'en inspirer à marche forcée pour répondre à la crise. Cette belle mécanique risque-t-elle de se gripper? Débat.
Enfin, le Mac.
Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire en mode confiné dans la cave. Cette semaine, on va beaucoup parler de logistique et nous devions avoir un spécialiste en duplex sur Skype. Aurélien Rouquet, bonjour Aurélien.
Bonjour.
Aurélien, tu es professeur de logistique à Neoma Business School, c'est bien ça?
Exactement.
Tu peux nous en parler, dire quelques mots de cette école de commerce?
Alors Neoma Business School, c'est une des écoles de commerce françaises qui est issue de la fusion de l'école de commerce de Rouen et de l'école de commerce de Reims et qui fait partie maintenant du top 10 mondial, du top 50 européen parmi les écoles de commerce.
Alors, une autre personne qui s'intéresse beaucoup à l'éducation, également en duplex sur Skype, il s'agit de Stéphane Zibi de Ionisix. Bonjour Stéphane.
Bonjour Olivier, bonjour Aurélien, bonjour Laurent, bonjour à tous.
Voilà, c'était une longue journée pour lui en mode confiné. Les cours de Ionisix sont toujours disponibles en ligne et ce gratuitement.
Pour profiter du confinement au maximum, au lieu de regarder tout le temps les séries, parce qu'on finit par ne plus savoir quoi voir. Entre deux séries, on peut s'instruire et se former à tout un tas de matières. Et on profite aussi de la puissance du groupe Ionis avec les écoles de ce groupe. Et voilà.
En clair, oui, libérer un petit peu de... Arrêter de regarder Netflix, ça nous libérait un peu de bande passante pour faire Refilma, parce que ce soir, on a vraiment... On a l'impression...
J'allais le dire, justement.
Voilà, parce que ce soir, on a l'impression de revenir au temps du Minitel ou presque. En autre chroniqueur, son image est presque pas trop mal ce soir. Laurent Pantanache de X-Brain. Bonjour Laurent.
Bonjour Olivier, bonjour On refait le Mac, bonjour tout le monde.
On va parler de logistique et d'intelligence artificielle parce que c'est également des outils qui sont pas mal utilisés en matière de prédiction, justement de flux, etc. Des choses comme ça. Hein. Tu auras ton mot à dire ce soir, Laurent.
J'ai des choses à dire.
Allez, on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'On refait le Mac. La question était: pour être mieux préparé aux pandémies, pensez-vous que les États devront plus s'inspirer de la redoutable logistique développée par les géants de la tech, à l'instar d'Apple, pour inonder le marché avec leurs smartphones? Alors je regarde en temps réel, puisqu'on a lancé le sondage quasiment avant le début de cette émission, donc il n'y aura pas énormément de réponses, mais ça sera quand même un bel état des lieux. Je vous dis ça en temps réel. Malgré que je manque de lunettes pour lire, alors j'enlève mes lunettes. Alors, les résultats, c'est 54% qui considèrent que, avant tout, c'est une réponse qui doit être politique plutôt que logistique, et seulement 46% à considérer qu'il faut que les États se mettent au niveau de la logistique des géants de la tech. On a une heure pour en débattre. Pour vous donner un petit peu un état des lieux des questions qu'on a eues cette semaine sur Twitter, déjà un constat, effectivement, on vous le disait dans le sommaire, Apple a sorti des produits, ils sont disponibles alors que c'est la pandémie et on manque quasiment de pas mal de produits première nécessité, mais apparemment pas d'iPad Pro, comme nous le dit Jean-Marc Ouvray, qui confirme que l'iPad est bien arrivé. Hello RLM, pas de questions, mais un témoignage qui va dans ce sens. Livré du nouvel iPad Pro, un bonheur. On attend du nouveau clavier, pas de date, pas de commande possible. Question toute simple, on va peut-être donner la parole d'abord à Aurélien, notre spécialiste de la logistique. Comment Apple, je sais que tu n'as pas forcément une boule de cristal, mais comment Apple est parvenu à produire des nouveaux appareils en Chine malgré le confinement? Les infos qu'on avait ces dernières semaines étaient assez alarmistes sur la production des usines en Chine.
Alors oui, effectivement, on avait des informations qui étaient assez alarmistes, mais malgré tout, les informations qu'on avait, c'est que les usines ont continué malgré tout à tourner, au ralenti certes, mais elles ont continué à tourner. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu d'arrêt total de la production et qu'Apple soit aussi une des entreprises à avoir une supply chain qui est vraiment considérée par beaucoup comme l'une des plus organisées et l'une des meilleures, a fait que Apple a réussi à faire face à cette crise.
Ça peut montrer aussi, mais on en parlera tout à l'heure puisqu'on va essayer de détailler, si tu veux bien Aurélien, ensemble un petit peu la mécanique de cette supply chain que tu nous décris et qui est redoutable, que Apple travaille très en amont la conception et la production de ses produits et qu'elle était peut-être un peu en avance justement de cette pandémie et qu'elle n'en a pas trop souffert, mais on y reviendra tout à l'heure. Peut-être une petite réaction de nos chroniqueurs sur Skype du côté de Stéphane et Laurent, est-ce que vous êtes surpris de cette difficulté, à part évidemment de trouver un magasin, mais on peut être livré par Internet?
Effectivement, les machines sont disponibles. Je pense malgré tout que le volume de machines vendues, que ce soit l'iPad ou le MacBook Air, reste quand même beaucoup plus faible, étant donné que les Apple Store sont fermés. Paradoxalement, une logistique où ils n'ont pas livré les Apple Store est vachement simple. Aujourd'hui, j'ai discuté ce matin, j'ai reçu un colis à la maison, le livreur il me dit c'est un plaisir. Il maximise ses livraisons, il fait à peu près deux fois plus de livraisons que ce qu'il faisait d'habitude dans le même temps, puisqu'il n'y a plus du tout de circulation. Donc, si tu veux, à partir du moment où tu règles le problème en amont de la production de tes iPads, effectivement, Aurélien en parlera beaucoup mieux que moi, le dernier kilomètre est assez simple aujourd'hui pour les livreurs, si ce n'est qu'ils doivent se protéger. Pour eux, ils me disaient, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir.
Stéphane, une réaction peut-être ?
Oui, juste une réaction. Je suis d'accord avec Laurent. Je pense que le niveau de consommation ne doit pas être exceptionnel en ce moment. Je pense qu'on a plus obsession à remplir nos placards et nos frigos en nourriture.
Que d'acheter des iPads, c'est vrai.
Que d'acheter des iPads. Donc, je ne pense pas qu'il y ait le record des ventes. Et je ne pense pas qu'on risque d'avoir sur nos Apple Store des stocks. Non, pas des stocks, en tout cas des difficultés pour avoir des produits. Néanmoins, là j'ai fait l'expérience, on ne peut pas avoir quand même d'appareil avant, je crois que j'ai essayé sur le MacBook Air, on ne peut pas avoir d'appareil avant 3 semaines. Donc, certes, on a déjà connu des soucis liés à la rareté et provoqués par Apple. Mais on en parlera plus tard dans l'émission. Je pense que moi, c'est sûr que moi j'aime bien ce sujet-là parce que j'ai pu participer et faire des conférences autour de la supply chain parce que c'est pour moi un des succès des 3A, que ce soit Amazon, Apple et Alibaba, et que leur stratégie est basée beaucoup sur ça. Quand on a des habilitations comme celle d'Apple ou d'autres à pouvoir fabriquer, produire, etc., dans un effort national comme les États-Unis vont devoir obligatoirement faire, parce que je pense que ça va être le pays le plus touché par ce virus, de par le retard des décisions qui ont été prises par le président américain, Apple peut-être va devoir fabriquer des respirateurs.
Ouais, ça a déjà commencé, on l'a vu notamment avec Elon Musk. Aurélien, pour essayer de comprendre, on va y venir dans un instant sur l'historique, que Apple est vraiment un précurseur en matière de supply chain, dans la tech en tout cas. On a vu que les États s'y mettent, qu'ils n'avaient pas forcément un système de supply chain qui était en ordre de marche, et que c'est une mécanique qui nécessite des années pour la maîtriser. On découvre d'ailleurs un peu par surprise que les grands gouvernements ont l'impression de découvrir en temps réel avec le coronavirus l'étendue de la mondialisation. Mais ça, c'est un autre débat, on va en parler dans un instant. Est-ce que tu penses que les États auraient à gagner et ont-ils aujourd'hui les moyens d'imiter les géants de la tech pour répondre aujourd'hui aux urgences et provoquées par la pandémie du coronavirus ? Aurélien.
Alors, on peut dire plusieurs choses intéressantes autour de cette question. La première chose, c'est que c'est un peu un retour de balancier de l'histoire, parce que la logistique, ça a été inventé par les États. Le terme même de logistique, il dérive de maréchal des logis, et ça a été inventé pour faire la guerre par les États, notamment sous Napoléon. Le premier théoricien militaire, c'est Jobinet qui travaille sous Napoléon. Donc c'est vraiment associé à la démarche étatique et à la démarche guerrière. Et c'est seulement dans les années 60, si on fait l'historique, que les entreprises se mettent à se préoccuper de logistique et à parler de logistique, puis après de supply chain. Et effectivement, aujourd'hui, les entreprises privées, on pourrait parler d'autres cas que celui d'Apple, par exemple IKEA, Amazon, enfin d'autres entreprises comme celle-là sont vraiment très au point d'un point de vue logistique, sont plus en avance que beaucoup d'États. Mais ça dépend largement des États. Si on prend le cas de l'Allemagne, qui est classée première par la Banque mondiale dans un indice de performance logistique des pays, leur succès économique aujourd'hui, il est aussi lié à leur organisation logistique. Si on prend la Chine, le projet des nouvelles routes de la soie n'est rien d'autre qu'un projet finalement géopolitique, logistique. Donc la plupart des États n'ont pas forcément attendu la crise pour s'intéresser à la logistique et commencer à avoir des démarches assez poussées sur ce plan.
Mais pour revenir à la France, est-ce que tu crois qu'on a justement, alors qu'on était assez précurseurs, et puis il y a eu des plans quinquennaux, enfin c'est une tradition française de la République pendant des années, qui s'est un peu perdue d'ailleurs, est-ce que le logisticien a toujours son mot à dire dans l'organigramme de l'État aujourd'hui? Est-ce qu'il manque? Est-ce qu'il faudrait pouvoir plus de logisticiens pour imiter encore une fois les gens de la tech et anticiper les crises telles qu'on la connaît aujourd'hui?
Alors, clairement, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que la France, d'un point de vue logistique, elle n'est pas au niveau de son voisin allemand et d'autres pays. Hein. Si on reprend ce classement de la Banque mondiale, qui est discutable, hein, mais qui est quand même une base intéressante, la France est 16e, alors qu'on est au sein du G7. Donc, on est loin des grands pays sur ce plan-là. Si on prend un autre indicateur intéressant, les grands prestataires de services logistiques mondiaux, on peut citer DHL, on peut citer FedEx, on peut citer UPS, entreprise allemande, entreprise des États-Unis. La première entreprise française, Geodis, n'est pas dans le top 10. Donc voilà, on est sur une logistique qui n'est pas vue depuis des années par l'État comme stratégique, même s'il y a des choses qui ont été faites durant les 10 dernières années. Hein. Par exemple, la France a développé pour la première fois sa stratégie, hein, la stratégie France Logistique 2025, à la fin du quinquennat de François Hollande. Mais c'est seulement à la fin de 2019 que ça s'est traduit concrètement par quelques actions sous le gouvernement d'Édouard Philippe. Donc on voit bien qu'on a un retard et que, pour moi, très clairement, hein, ce que révèle la crise du coronavirus en France et les défauts logistiques, hein, liés notamment aux masques, ça va être peut-être une chance, entre guillemets, hein, pour la logistique, parce que tout le monde s'aperçoit que c'est essentiel.
Et quelque part, ça explique pourquoi la France et les États-Unis, c'est la même chose, comme le disait à l'instant Stéphane, s'appuient sur ces grands fleurons de l'industrie ou du luxe français, pour penser notamment à LVMH, pour justement bénéficier de sa logistique qui est déjà en place pour la distribution des produits de luxe des matières premières pour construire ces parfums ou ces produits de luxe, pour aujourd'hui essayer d'inonder le marché de masques, aller les chercher en Chine. On utilise la logistique d'une entreprise privée, en gros, c'est ça l'idée.
Bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait faire? Je dirais, on peut se poser la question. Ce qui est clair, c'est que si je parle vraiment, et là, on a un point de vue à la fois qui mélange l'expertise et puis forcément un point de vue politique, puisque là, on parle de politique. Hein, pour moi, le rôle de l'État, d'un point de vue logistique, il doit être, entre guillemets, d'une part, effectivement, de définir une stratégie globale. D'autre part, d'être là aussi en soutien à l'industrie de la prestation de services logistiques, hein, tous les acteurs, les transporteurs, etc. Et puis, il a quand même un rôle à jouer dans la logistique de réponse aux crises. Et c'était le rôle qui était dévolu, on en a un peu parlé, à l'EPRUS, l'organisme qui était chargé de préparer les réponses, qui était un rôle de logisticien, qui a été un petit peu critiqué dans le passé. Et on voit bien que, entre guillemets, on a quand même besoin d'un état logistique fort pour faire face à des crises. Parce que l'état n'arrivera pas tout seul. Il faudra qu'il fasse avec des industriels, qu'il s'appuie sur des prestataires de services logistiques, mais il doit avoir quand même une force de frappe logistique. C'est ce que révèle, en tout cas, pour moi, la crise. Hein.
Ouais. Question pour Laurent. À l'instant, Stéphane nous parlait des robots, notamment d'Amazon, qui permet effectivement de supplier le manque de salariés, pas simplement dans une perspective d'économie, mais pour répondre à la demande aujourd'hui à cause du coronavirus. On sait que les gens de la tech, donc notamment Amazon, utilisent également beaucoup l'intelligence artificielle pour prédire la demande et calibrer la logistique. Est-ce que là, il y aurait beaucoup à faire dans notre pays? Et toi qui es un spécialiste de l'intelligence artificielle et qui a une start-up qui essaie de grandir à Paris et dans la Silicon Valley. Toi, tu as des contacts fréquents avec des décideurs politiques. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un travail à faire pour que l'IA ait toute sa place dans ces grandes décisions, ces grandes pandémies et au-delà, ces grandes perspectives qu'il faut essayer de dessiner sur les années qui viennent?
Alors oui, le paradoxe de la situation, j'en citerai deux. Hein. Le premier, c'est que, et Aurélien l'a très très bien mentionné, c'est que il faut qu'il y ait un terreau fertile. La difficulté aujourd'hui de la France, c'est que culturellement, c'est pas un sujet, tu vois, et je suis pas étonné, je connaissais pas ce classement de la Banque mondiale sur l'Allemagne, mais je suis pas étonné parce que culturellement, il y a une vraie différence entre les deux pays. Nous, c'est pas un sujet. J'ai un point sur lequel je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, la logistique des sociétés du luxe n'est pas quelque chose de. Moi, j'ai bossé dans la supply chain, j'ai bossé chez un éditeur de logiciels en supply chain, et ce qu'on t'apprend, c'est que tu essayes toujours de maximiser quelque chose, quoi. Réduire la rotation des stocks, minimiser la durée de livraison, tout ça. Dans la supply chain, quand un produit commence à être demandé, ils ont tendance à l'arrêter pour faire augmenter les prix, quoi. Tu vois, un sac de luxe, ce truc. Donc je suis pas certain que le sujet logistique. Ouais, on a plutôt tendance à cultiver la rareté. Maintenant, pour revenir sur le sujet de l'intelligence artificielle, le paradoxe, c'est que le début de l'intelligence artificielle, c'est avant tout l'analyse des données. C'est souvent la première brique, c'est de comprendre les données. Et dans le cas de la crise actuelle, l'analyse des données chinoises d'une part, je dirais coréenne, japonaise, singapourienne, hongkongaise d'autre part, et italienne dans la troisième partie, aurait dû faire trembler tous les autres gouvernements du monde, à savoir les Français, les Espagnols, les Anglais, les Américains. Et en fait, tout le monde a regardé ça avec un espèce d'esprit de dédain, mais j'ai l'impression qu'on a pris un petit peu de haut ce qui se passait en Italie. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on se rend compte que la trajectoire, et l'Espagne, c'est pire que l'Italie, les États-Unis, ça va être un carnage. Donc, avant même de mettre de l'intelligence artificielle pour analyser, si on avait juste analysé les dates, les données existantes et disponibles, on aurait dû réagir. Donc, sans même être d'intelligence, juste en mettant de l'analyse humaine. Donc oui, l'intelligence artificielle pourrait aider dans l'optimisation et la fluidification, mais commençons par la première brique de la grande maison logistique, analyse et réaction aux pandémies, ça serait déjà mieux.
Encore faut-il que les données, notamment ceux qui ont été, qui ont transpiré, ou du moins du côté de la Chine, soient exactes, ces données-là. Et apparemment, il y a beaucoup à dire et on s'interroge beaucoup de ce côté-là, même si on n'a pas encore suffisamment d'informations pour porter un jugement. Mais il y a de fortes présomptions, comme quoi les données qui étaient la courbe qui se dessinait en Chine n'était pas la bonne.
Non, mais il y avait une forte probabilité, quoi qu'il en soit, pour que la courbe soit moins pire que la réalité. Donc si tu pars du principe que a priori au regard de la culture de communication et de la situation, ça veut dire que tu pouvais te dire que tu avais à la limite une courbe basse. C'était pas une courbe haute, c'était une courbe basse. Théoriquement, et les courbes étaient déjà quand même assez, angoissantes. C'est passionnant de suivre comment la Corée gère la situation. Alors attention, j'ai eu un petit débat aujourd'hui sur Internet suite à un de mes tweets, et j'ai un de nos auditeurs qui m'a répondu de façon très intelligente d'aller lire un podcast et que j'ai écouté cet après-midi. Effectivement, culturellement, l'Asie n'a pas le même relationnel. Nous, on est des latins, quoi. Tu vois, Stéphane, quand on se voit, on se claque la bise avec toi, on se tape sur le ventre. Tu vois, on se touche. Les Asiatiques sont beaucoup moins tactiles, respectent plus les distances. En Corée, il y a le fameux patient 31. Jusqu'au patient 31, les 30 premiers, ils les avaient confinés. Le 31e est une femme qui est allée, alors qu'elle toussait, qu'elle avait de la fièvre, elle est allée dans des lieux de culte, dans deux lieux de culte différents. Mais ils avaient vraiment traqué. Alors,
Tracé.
Je suis pour les libertés, tu le sais. Quand la technologie peut t'aider, pourquoi pas? J'ai pas de problème à ce que quand la technologie me sauve la vie, tu sais, c'est toujours la même chose.
Alors Stéphane, revenons au sujet au thème de notre sondage. Beaucoup d'internautes dans notre sondage justement pensent plutôt que le problème tient plus que de la logistique d'une réponse politique à apporter aujourd'hui. En clair, de la capacité des États à être moins dépendants de la Chine. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous croyez que demain, dans la tech notamment, il va y avoir une prise de conscience et qu'il va y avoir notamment, ou du moins pour des produits comme ça qui sont d'une nécessité importante, une nouvelle régionalisation, une nouvelle industrialisation au niveau, je dirais, local? Stéphane.
Je pense que la réponse, elle a déjà été donnée par le président Macron. Que la souveraineté, on ne peut pas se permettre aujourd'hui que certains éléments importants dans notre vie, que ce soit de la nourriture, des médicaments,
Oui, mais bien sûr, Stéphane, mais on a vu qu'à chaque fois qu'un chat de crise, on a toujours sur le moment à chaud, on positive et on dit que ce sera différent. Mais on a vu qu'avec la crise de 2008, notamment la crise économique, c'est reparti de plus belle après.
On n'en a pas pris conscience, Olivier. On n'en a pas pris conscience. Là, il se trouve que ça nous touche intimement. En 2008, tu pouvais circuler librement. Tu pouvais acheter ce que tu voulais. Tu n'avais pas un énorme impact sur ta fiche de paye. Je crois que c'était juste ceux qui avaient des emprunts. Bon, ils ont pu sentir 2-3 bricoles au niveau des banques. Mais est-ce que les gens, ils en ont pris conscience? Ils n'en ont pas pris conscience. Là, pour la première fois, je pense, de la vie de beaucoup de gens, on se retrouve coincé chez nous, par obligation pour ne pas choper un virus, parce que notre santé est touchée. Là, s'il n'y a pas de changement après, en tout, hein, parce que tout à l'heure, Laurent, il parlait que c'est un plaisir de rouler dans Paris. On va peut-être prendre conscience peut-être de plein de choses. Mais quand il y a un problème comme ça, on s'aperçoit qu'on a trop mis nos œufs dans des mêmes paniers, tout ça pour des raisons économiques.
C'est bien compris. Aurélien, de ton côté, est-ce que tu crois qu'il va y avoir une tentative de régulation politique de ces mécanos industriels à l'échelle de la mondialisation et privilégier plutôt la production locale de certains produits, tout simplement? Et pourquoi pas, effectivement, refaire revenir certaines productions en matière de tech? Il y a une question d'un internaute juste après qui me semble assez intéressante. Aurélien.
Alors, pour répondre aux questions, pour moi, finalement, la logistique, c'est aussi politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la logistique, c'est uniquement quelque chose de technique, c'est aussi des décisions politiques. Donc, c'est pour ça que les deux sont liés et que y a besoin d'avoir une expertise logistique au niveau étatique, sachant qu'après, on peut avoir des choix politiques en matière de logistique qui seront différents. On peut très bien dire, on pourrait très bien dire, je vais nationaliser tous les livreurs Deliveroo ou Uber Eats, ou on peut s'appuyer sur la société privée. Enfin, voilà, selon son orientation politique, on peut faire des choix, mais en tout cas, il y a des décisions logistiques qui doivent être prises par les politiques. Après, sur la deuxième question de la relocalisation, c'est difficile de savoir. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on est depuis des années sur une forme, entre guillemets, de libéralisme logistique. À titre personnel, on se déplace quand on est issu d'un pays occidental où on veut, et on fait venir des produits de là où on veut. Est-ce que ça va être toujours le cas dans l'avenir? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être parce qu'on a le réchauffement climatique qui arrive derrière et qui est quand même aussi une espèce de choses qu'on vit grâce aussi à ce confinement, quoi. C'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment que le réchauffement climatique, il est là aussi pour nous à cause de ce confinement-là.
Ah, c'est la prochaine étape.
Voilà, c'est la prochaine étape. Maintenant, ça peut être assez facile de rapatrier la production de masques en France. Rapatrier la production d'un téléphone portable, c'est d'une complexité qui est quand même tout autre. Donc voilà, c'est aussi ça la question, c'est-à-dire quelle est la technicité des produits et quelles sont les compétences qu'on doit acquérir pour y parvenir.
Justement, Aurélien, il y a une question d'Alan Tranouez qui justement est assez liée à ce que tu disais. Question en deux parties. La première question est Apple sur Twitter. Apple prétend qu'ils ne peuvent pas faire assembler leur iPhone en dehors de la Chine, qu'elles auraient un savoir technique particulier. C'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent. Et ce ne serait pas uniquement pour des raisons de coût, hein, mais il y a une question de savoir-faire. Et quand ils cherchent à faire ailleurs, ils vont en Inde ou au Vietnam. Et deuxième partie de son tweet, ces derniers seraient si en avance technologique par rapport aux États-Unis et en Europe, c'est sa question. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi, après tout, on délocalise, si ce n'est pas une question de coût, mais je pense que c'est une question de coût, en Inde et au Vietnam, parce qu'effectivement, Trump oblige les constructeurs américains à partir de Chine, pas lié au coronavirus, c'est depuis son élection, et que pourquoi pas l'Europe, concrètement?
Alors là, il faut aussi regarder le modèle d'Apple, qui est quand même un modèle assez particulier, puisque finalement, la relation entre Apple et Foxconn, c'est vraiment un partenariat stratégique entre ces deux entreprises. J'ai pas les chiffres récents, mais entre 2010 et 2015, Apple, c'est 50 à 60% du chiffre d'affaires de Foxconn. Donc, on est dans une situation où, au fond, Apple est ultra dépendant de Foxconn et réciproquement. Donc, ils ont intérêt tous les deux à coopérer, à bien travailler. Alors, je pense que leurs négociations commerciales annuelles doivent être assez intéressantes au niveau du prix. Mais en tout cas, on a ce modèle-là qui est assez unique. Hein. Quand on prend des constructeurs automobiles, ils assemblent même les voitures. Donc, ce modèle-là, il fait que, au fond, il faut regarder la stratégie de Foxconn. Et Foxconn, c'est une entreprise taïwanaise, et Foxconn, bon, c'est beaucoup développé en Chine historiquement. Et ce que cherche à faire Foxconn, et ça semble assez logique, c'est d'aller dans d'autres pays. Parce qu'on voit bien que la problématique, c'est que quand on est dans un seul pays, eh bien, on est face à un certain nombre de risques, comme ceux qui arrivent aujourd'hui.
Bien sûr.
Mais là où c'est compliqué, c'est que, au fond, la fabrication d'un iPhone se prête très bien à une logique de centralisation de la fabrication. Alors que ce n'est pas le cas, par exemple, pour un meuble IKEA. IKEA, votre Billy, qui est vendu la même partout dans le monde, elle est fabriquée dans différentes usines à travers le monde. Pourquoi ? Parce que les coûts logistiques d'expédier des Billy sont très importants. Alors qu'un iPhone, bah, on les met dans des cartons, on les met dans des conteneurs, on les envoie par avion, et le coût de l'iPhone, le coût de l'expédition, fait que bah, on a intérêt à centraliser la production et on a intérêt à pas avoir beaucoup de stock et à tout expédier par avion. Donc c'est aussi ça qui explique le modèle logistique d'Apple. C'est ces facteurs liés aux produits qui sont aussi très importants à avoir en tête, quoi.
Alors Aurélien, je te propose qu'on fasse un gros focus sur Apple et la logistique, l'arme secrète d'Apple aujourd'hui. La logistique, l'arme secrète d'Apple. Apple, Aurélien, est devenu un constructeur vraiment référence, du moins dans la tech, en matière de logistique, et ce, assez rapidement. C'était relativement, même, je dirais, un pionnier parmi les acteurs de la tech d'une maîtrise de la logistique à ce point-là, oui. C'est le cas. En tout cas, il est présenté comme ça.
Hein. Alors oui, on prend des études qui font référence, comme celle du cabinet Gartner, qui classe effectivement la supply chain d'Apple comme numéro un très très régulièrement. Et voilà, effectivement. Et on peut aussi prendre comme exemple Tim Cook, qui effectivement à la suite de Steve Jobs est devenu le directeur d'Apple et qui s'occupait de la supply chain. Donc ce qui montre l'importance que ça a au-delà évidemment de ce qu'on voit, la conception du produit, qui est bien sûr stratégique.
Ouais, c'est-à-dire qu'au-delà de la qualité intrinsèque des produits, du talent de ceux des ingénieurs ou des designers qui conçoivent ces produits, vraiment la logistique tient une place vraiment prépondérante aujourd'hui, Aurélien, dans ce succès. Il n'y a qu'à pour s'en apercevoir, se rendre compte du nombre de pays qui du jour au lendemain reçoivent une nouveauté. Alors, on le voit notamment en septembre lorsqu'il arrive un nouvel iPhone. Le dernier iPhone 11 Pro, je crois, a été disponible dans 30 pays en seulement 10 jours après son annonce. Ça demande une mécanique extrêmement bien huilée. Hein.
Alors oui, c'est une mécanique bien huilée qui s'appuie quand même, il faut le dire, pas uniquement sur Apple, mais sur tout un tas de gros prestataires de services logistiques mondialisés qui finalement prennent en charge aussi tout le transfert des produits entre les usines et puis les Apple Store ou les différents endroits où sont vendus les téléphones et les produits Apple, hein, les FedEx, les UPS, qui organisent cette logistique et qui sont bah, voilà, des spécialistes de la logistique. Donc Apple ne fait pas tout en interne, hein, d'un point de vue logistique et supply chain, mais c'est sa capacité, entre guillemets, à, au fond, coordonner tous les acteurs, à la fois les producteurs, les prestataires de services logistiques et puis les distributeurs, qui fait la force de la supply chain d'Apple.
Ouais, et à tel point, tu l'as dit Aurélien, que la personne qui a été choisie par Steve Jobs pour lui succéder, c'est Tim Cook, et c'était le patron de la logistique. C'est lui qui est vraiment qui a conçu cette mécanique aujourd'hui qui fait qu'Apple est aussi efficace.
C'est lui, effectivement. Hein, il était, si mes souvenirs sont bons, effectivement, il a été nommé à ce poste-là parce que justement, Apple rencontrait un certain nombre de difficultés logistiques d'approvisionnement. Voilà.
C'était son maillon faible.
C'était un maillon faible qui découlait aussi, entre guillemets, du succès de la marque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés avec énormément de ventes. Et du coup, il faut être capable de suivre, quoi, parce que ce n'est pas le tout de vente, mais il faut acheminer les produits après, derrière.
Ouais, Laurent, Stéphane, la logistique d'Apple, on le sait, elle ne se limite pas simplement à fermer des usines aux États-Unis pour les remplacer par des sous-traitants en Chine. Ce qui fait la force d'Apple, et on le voit quasiment chaque semaine dans cette émission, c'est que historiquement, elle est très forte dans l'approvisionnement des composants. Ce qu'elle tente à chaque fois, c'est quasiment d'assécher le marché. Hein. C'est ça, Laurent?
Oui, ça a été une des philosophies et sous l'ère effectivement Tim Cook dans son rôle à la supply chain. Bon, on connaît tous l'histoire de l'iPod, hein, où finalement en découvrant les disques durs, Steve Jobs a dit acheter l'intégralité du marché pour que finalement il bloque à la sortie du premier iPod, la capacité des concurrents de pouvoir venir les attaquer sur ce nouveau produit, sur ce nouveau presque, je vais dire segment qu'ils allaient créer, parce que les baladeurs MP3 existaient, mais en tout cas il y a un avant et un après iPod. Il y a aussi, alors moi je voulais ajouter un point sur les usines. Donc effectivement, Apple s'est légèrement délocalisé. Hein, donc quand on dit Apple en Asie se délocalise, c'est Foxconn qui se délocalise.
Ce qui est là où.
Ouais, mais là où c'est très très fort, c'est par exemple, on sait que Apple est en bisbille de malade avec Samsung sur plein de sujets, et pourtant ils vont acheter des composants Samsung, voire même négocier une exclusivité de composants chez Samsung pour créer leurs propres produits qui vont concurrencer un autre produit de Samsung ou d'autres marques. Hein, ça arrive. C'est là où c'est très très fort, quoi, de se dire que ils arrivent à avoir un tel point que même au sein d'une même grande maison. Alors attention, hein, Samsung, c'est des milliers d'entreprise, hein, mais d'une même maison, de réussir à générer ça. Et ça c'est pour moi un vrai succès.
Une réaction peut-être, Stéphane, qu'est-ce que ça t'inspire justement, cette capacité comme ça à arriver et à essayer de rafler l'essentiel des composants, de sorte qu'effectivement, à l'instar de l'iPod, si tu veux copier, eh bien tu peux pas, et on n'en trouve pas.
Dans un ancien article qui date de 2016, hein, donc en gros, on est en 2016, donc c'est la préhistoire, hein. En gros, à l'époque, Apple avait 40 000 robots. J'étais en train de regarder à cette époque-là, le nombre d'employés à peu près d'Apple était à peu près à 120 000. Et à l'époque, un robot pouvait fabriquer jusqu'à 10 000 devices par jour. Donc, en gros, on n'était pas encore dans une usine complètement robotisée 24/24. Qui allait virer même les employés, parce qu'en même moment, il y avait plus d'1 300 000 employés chez Foxconn. Et c'est ça aussi qui est fort, c'est que je pense que c'est la même stratégie qu'Amazon dans un certain point, parce qu'Amazon, plus il y avait de robots, plus la productivité était importante, plus il y avait d'employés derrière. Donc en gros, c'était un accélérateur. Et donc, pour moi, c'est presque la base même et la stratégie d'une société. Et comme on dit, c'est la politique d'une société. Aurélien l'a bien dit. La logistique, c'est de la politique. Pas seulement au niveau d'un pays, mais c'est la stratégie complète. Et les sociétés qui réussissent ont, pour eux, voilà, ont une supply chain qui est automatisée, processée. Et quasiment, c'est quasiment de l'obsession, je vais dire presque comme ça.
Et au-delà, Aurélien, peut-être une réaction. On a un président qui parlait de guerre à propos du coronavirus, mais la logistique, c'est aussi une guerre entre entreprises. On l'a vu par les tentatives d'Apple d'essayer chaque, je dirais, concurrent d'Apple ou Apple en lui-même essaie d'assécher les marchés et de récolter les meilleurs composants pour lui. Ça fait froid dans le dos à l'heure du coronavirus où chaque pays doit finalement se battre pour avoir cette fois-ci des biens essentiels.
Oui, alors moi je suis convaincu, hein, je l'ai évoqué, hein, tout à l'heure, que la logistique, bah, ça a été d'abord conçu pour faire la guerre. Hein, ouais. Donc c'est ça l'origine de la logistique. Hein, on voit ça d'un œil extérieur comme étant des camions, des entrepôts, c'est assez opérationnel, mais en fait c'est ça qui est aussi un aspect essentiel. Sans bonne logistique, on ne peut pas mettre en œuvre sa stratégie. Donc c'est clair. La question après, c'est évidemment, est-ce que les États vont se faire une guerre logistique et jusqu'où ça va aller ? Il est clair que, si je reprends la Chine, voilà, les routes de la soie sont une logique de guerre logistique vis-à-vis du reste du monde, en tout cas de prise de pouvoir. On pourrait aussi parler de l'Europe, tous les débats qu'il y a eu dernièrement en Europe sur les masques, les transferts de lits, etc. Bah, on voit bien qu'il y a une forme de concurrence entre les États sur le plan logistique, et que bah, on pourrait aussi aller vers beaucoup plus de coopération. Et par exemple, si on prend le cas des stocks stratégiques pour faire une réponse à des crises sanitaires, il serait presque logique que l'Europe se dote de stocks mutualisés, répartis sur toute l'Europe, dans un certain nombre de plateformes, pour pouvoir répondre collectivement à une menace qui est celle qu'on connaît, au sens où le coronavirus ne connaît pas de frontières. Quoi. Ben, voilà.
Alors pour conclure, peut-être avec Laurent, mais brièvement, Laurent.
Oui. Dans les années 2000, 2001-2002, je travaillais chez un éditeur logiciel qui s'appelait i2 Technologies et qui était le leader mondial du software dans la supply chain.
Ça ne rajeunit pas, mon cher Laurent. Hein ?
Non, ça n'enrageait pas. Mais par contre, ils avaient un logiciel, et je vais encore me faire traiter d'ultra-libéral, et je le regrette, mais ils avaient un logiciel qui était génial d'un point de vue mathématique pur, d'un point de vue humain et sociologique, qui était immonde. C'est un logiciel dans lequel tu mettais tous tes coûts de production, tes coûts de stockage, tes coûts de livraison, tes coûts de licenciement, tes coûts de tout. Tu mettais l'intégralité, c'était des couches, et tu mettais, et donc tu appuyais sur un bouton, et tu disais voilà combien je produis aujourd'hui, voilà où se trouve mon marché, voilà le plan de développement que j'ai pour les 10 années, 5 années, 2 années à venir. Tu appuyais sur un bouton, ça processait, et ça te disait tu fermes 3 usines en Asie, tu en ouvres 2 en Amérique du Nord, tu arrêtes tu mets ton centre de logistique en Amérique du Sud par rapport à ton marché. C'était mathématiquement, c'était génial. Après, il y a bien évidemment la dimension humaine. Sauf que en 2000, on n'avait pas un monde qui était aussi mondialisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un monde qui est totalement mondialisé. Et c'est là où, effectivement, je ne savais pas que l'histoire de le mot logistique venait de Maréchal des Logis, et la dimension guerrière et de Napoléon, que tu aimes beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui que le sujet, il est forcément mondial. Le coronavirus, c'est répandu parce que aujourd'hui, les gens voyagent dans le monde très très facilement. Les biens et les personnes circulent très très facilement. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai commandé un produit il y a quelques jours, et il n'était plus disponible en Europe parce que les plateformes logistiques sont asséchées du fait du confinement. Mais ils m'ont juste dit, au lieu d'être livré en 4 jours, vous serez livré en 12 jours. Et je viens de recevoir aujourd'hui la notification, le produit part de Chine. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est on n'est plus du tout, aujourd'hui c'est un espèce de grand entrepôt mondial. Donc c'est le sujet de la logistique est clé. Alors une des questions qui était, est-ce que les États doivent s'en inspirer? La question c'est quel est le rôle d'un État? Est-ce que le rôle d'un État c'est de le faire, ou est-ce que le rôle d'un État c'est de le permettre? Et c'est là où je pense que le rôle d'un État pour moi c'est de le permettre, c'est pas de le faire, et c'est de faciliter. Après, ce que pourrait faire un État, et c'est là où je penche sur la dimension éducative, c'est de former des managers au sujet de la logistique. C'est-à-dire que, grosso modo, si on te fait découvrir ces sujets de la logistique, moi je suis tombé dedans parce que j'étais dans une boîte qui a été rachetée par un éditeur en logistique, mais si je n'avais pas eu ce rachat, la logistique, je m'y serais intéressé bien plus tard. Et je me suis rendu compte très tôt que c'était un sujet majeur du développement des entreprises.
Allez, on revient encore une fois à Apple, et qui souvent, on l'a dit dans cette émission, présentée comme un exemple en matière de logistique. Pourtant, il y a pas mal de difficultés qui jalonnent son parcours. On se rappelle récemment des livraisons problématiques, notamment des AirPods, hein, les fameuses oreillettes d'Apple que j'utilise ce soir. Ça amène une question de jeton Bajrami. Pour moi, Apple n'est pas au point au niveau logistique, au vu des pénuries lors des livraisons annuelles d'iPhone. Comment explique-t-on qu'il n'arrive pas à prévoir suffisamment de stock alors qu'ils connaissent d'avance le minimum à fabriquer et se fiant au modèle précédent? Laurent, peut-être.
Ah ouais, je voulais juste dire un point là-dessus, et merci de m'avoir donné la parole. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne dis pas que ce tweetos a tort, hein. Il a raison qu'effectivement on arrive à des pénuries. Mais en fait, c'est un vrai challenge. C'est-à-dire qu'en amont, on sait qu'Apple planifie plutôt bien la production de ses produits. La difficulté que tu as, c'est quand est-ce que tu arrêtes la recherche et développement d'un produit, c'est-à-dire que tu fiches ton produit pour dire maintenant il part en production. À ce moment-là, tu as l'acheminement de la matière première. Hein. Si c'est les iPhones, ça va être les écrans, l'aluminium qui permet de le faire, l'anodisation, donc de produire, en sachant qu'en plus chez Apple, il y a un culte du secret. Donc c'est tout un calcul qui se fait entre le moment où tu arrêtes le produit, le moment où tu bloques, où tu as bloqué l'approvisionnement, souvent ça a été fait en amont, mais la livraison de l'approvisionnement, qu'ils essayent de faire venir un peu tard pour pas donner trop d'indices sur ce qu'il y aura dans le produit, le moment où ils stockent une certaine quantité, et puis ensuite le delivery pour qu'on l'ait dans les bacs, on va dire, souvent 10 jours après. Hein. L'annonce des téléphones Apple, c'est le mardi ou mercredi du 1er au 2e de septembre, et le vendredi qui suit, 10 jours après, on a les téléphones disponibles. Quoi. Donc je ne suis pas sûr que ce soit si mauvais que ça. Je pense que c'est dans très difficile.
Dans 30 pays, oui, effectivement.
Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit... Tu vois, après, est-ce que le téléphone est un succès? Est-ce que le marché se trouve et tout ça? Malgré tout, c'est plutôt... Je mets au défi beaucoup d'entreprises de se dire je suis capable de mettre à disposition quelques millions de produits valant 1000 euros pièce. Ça reste quand même un succès, quoi.
Cette réaction d'Aurélien, on parle même souvent de pénurie organisée par Apple pour exciter un petit peu la demande. Quelle est un petit peu ta vision des choses par rapport à cette pénurie dans des souvent victimes de son succès Apple?
Alors, j'ai pas des informations moi de l'intérieur, mais ce que je vois de l'extérieur, c'est qu'au fond, Qu'est-ce qui est intéressant pour Apple d'un point de vue marketing à l'issue d'un lancement d'un nouvel iPhone, c'est de pouvoir communiquer d'une part peut-être que les chiffres de vente sont meilleurs que l'iPhone précédent, et d'autre part peut-être de montrer que bah, y en a plus en stock, qu'on se les a arrachés. Donc au fond, est-ce que la meilleure stratégie pour Apple, c'est pas d'avoir une stratégie où évidemment, bien sûr, on met à disposition des tonnes de produits parce que bah, évidemment ça récolte de l'argent, du chiffre d'affaires, mais où on organise aussi en quelque guillemets une petite pénurie qui montre encore une fois le succès de la marque, on s'arrache les téléphones. Donc il ne faut pas toujours croire que la logistique est là pour rendre disponibles les produits. Dans certains cas, la logistique peut être là pour générer un peu de rareté.
Oui, on est bien d'accord. On aura l'occasion d'en reparler. On essaiera de faire une émission là-dessus, justement, sur les rumeurs, la rareté. On aura l'occasion, dans des temps plus heureux, j'espère, dans quelques semaines. Allez, on a bien compris qu'à court terme, il n'y avait pas de souci pour Apple en matière de production et logistique. Bien au contraire, c'est plutôt sur un temps plus long, dans un futur plus long, face à la pandémie de coronavirus, que se pose la question. Face à l'organisation, notamment compliquée pour Apple, pour la conception des produits, beaucoup et très lourd chez Apple avec le culte secret. Laurent en a parlé, alors on en parle tout de suite. Est-ce qu'Apple va pouvoir continuer sur ce même rythme dans le futur? Mais d'abord, place au busomètre. Le busomètre, les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine et les infos autour de la planète Apple via le site de Mac Forever en l'absence de Didier Policani. Ce soir, c'est moi qui m'y colle. Qu'est-ce qui nous a préparé Didier, première rumeur, l'iPhone 9, le 22 avril, effectivement, il y aurait encore une sortie qui est prévue dès la semaine prochaine. Et on sera, j'espère, au rendez-vous la semaine prochaine pour vous en parler. L'iPhone 9, il faut rappeler que c'est une évolution de l'iPhone 8 hein, avec les composants de l'iPhone 11, tout simplement. Et là, ce sera encore surprenant qu'Apple arrive à produire de nouvelles machines, mais là il n'y a pas forcément un nouveau design, donc on ne casse pas, je dirais, on ne conçoit pas une nouvelle ligne de production intégralement autour de cette nouvelle machine. Deuxième rumeur, des ultrasons dans l'Apple Pencil via un brevet qui a fuité sur internet pour détecter notamment les gestes. Voilà, ce serait une nouvelle fonctionnalité possible d'un futur Apple Pencil avec un système de détection tactile par ultrasons à suivre. Donc troisième info, rumeur, la 14, la prochaine génération de puces qui devrait être adoptée par l'iPhone 12 serait gravée à 5 nanomètres et produite dès le mois d'avril. Donc ça montre que, vous voyez, l'iPhone, on en parlera en fin d'émission, est-ce que l'iPhone 12 va être en retard? Eh bien, on commence à planifier la production dès le mois d'avril, presque 4 mois à l'avance. Quatrième rumeur, Apple complice de piraterie musicale. Alors c'est un peu complexe à comprendre. Il y a une affaire juridique assez trouble entre Apple et Adasam, une société de distribution de musique basée au Royaume-Uni, qui aurait, elles sont accusées parce qu'il y aurait une opération de piratage en matière musicale et d'avoir profité, bien sûr financièrement, de vendre des enregistrements de pratiquement tous les artistes connus des années 1920 aux années 1960 en utilisant des noms d'emprunt sur l'iTunes Store. On va voir également, ça pourrait peser très lourd. On sait qu'Apple a quelques sous de côté, donc on ne s'inquiète pas trop pour elle, mais quand même, ça risque de faire parler d'Apple dans quelques semaines. Et enfin, dernière rumeur selon Didier, l'Apple Watch bientôt adapté aux enfants. C'est en effet en fouinant dans le code d'iOS 14 que 9to5Mac a déniché quelques détails sur le mode enfant qui semblerait être embarqué dans WatchOS 7. Est-ce que ça veut dire que ce mode enfant serait propre à un modèle d'Apple Watch pour les enfants? On a une réponse dès le mois de septembre, s'il n'y a pas trop de retard, évidemment, autour de la sortie des nouveaux produits et de la pandémie du coronavirus. Retour sur Apple donc, et la logistique, et notamment cette fois, comment cette fois elle va pouvoir non seulement lancer la production, mais continuer à concevoir des produits en ces temps de confinement, c'est-à-dire à la maison, bien sûr. Comment Apple travaille à la maison, c'est le titre d'un article de The Information publié cette semaine qui détaille comment Apple s'adapte au confinement suite à la pandémie. Alors Laurent nous en a parlé, c'est assez compliqué pour Apple puisqu'avec le culte du secret, on le sait qu'il tient une place centrale dans l'organisation d'Apple et le confinement oblige à revoir tout son logiciel et ça favorise pas forcément le télétravail, Laurent, le culte du secret.
Non, ça ne facilite pas. On sait que les équipes Apple, en plus, ont une tendance, et surtout les équipes autour des produits, ont une tendance à se regrouper, même au sein de parties du bâtiment Apple à Cupertino qui sont sécurisées. Donc, normalement, les produits ne sortent pas. Hein. Bon, on se rappelle tous de l'épisode iPhone 4, même si pour moi, l'épisode est volontaire.
Oublié dans un bar, c'est ça?
Oui, oublié dans un bar. Bon, tout à l'heure, Aurélien le mentionnait en disant ils assoiffent un peu le marché parce que ça fait parler d'eux. Je ne suis pas certain qu'à ce moment-là, ce n'était pas aussi une façon de... J'en sais rien. Mais oui, donc du coup, c'est assez compliqué. Et du coup, il n'y a rien qui est mis en place chez Apple, y compris pour collaborer. J'ai appelé un collègue qui est chez Apple et qui m'a dit, tu vois, il n'y a pas de... Seules quelques équipes ont des VPN, des machins. C'est plutôt, on a un super bâtiment où les gens viennent se retrouver, où les gens viennent travailler, où il y a un lieu de travail. C'est pas du tout une entreprise orientée home office, du tout, du tout, du tout.
Ouais, et surtout, ils essaient de faire privilégier, d'après The Information, plutôt des outils maison, FaceTime et iCloud Drive, dans lesquels ils pourraient effectivement vérifier qu'il y a une totale intégrité des données, qu'évidemment, elles ne soient pas aspirées par d'éventuels concurrents. Par contre, tu le disais, pour ceux qui travaillent pour le matériel, c'est beaucoup plus compliqué. Monsieur X, qui n'est pas là ce soir, parce qu'il est, pour lui aussi, c'est une période de crise, puisqu'il travaille dans les télécoms, me racontait qu'il était l'un des rares du temps où il était au sein d'Apple, Europe, à accéder aux prototypes avant leur sortie. C'était une procédure extrêmement encadrée et il avait notamment interdiction de sortir les produits du bunker d'Apple Europe. Il aura l'occasion de raconter notamment une aventure autour d'un iPod qui a fait le tour du monde, mais ce n'est pas l'objet de ce soir. On sait pourtant que la firme laisse circuler. Oui, vas-y Laurent.
Il y a une très belle histoire que tu as racontée dans un précédent Refait le Mac, hein, sur la destruction des matériels Apple à la fermeture du bunker d'Apple qui était dans le sud de Paris, hein, de mémoire, et où ils ont plutôt préféré détruire des prototypes plutôt que de les rendre visibles, quoi.
Alors qu'il n'y a plus des prototypes, puisque les produits étaient sortis depuis des années, mais c'est vrai que ça a fait du mal à beaucoup de collectionneurs. Hein. Donc on sait que la firme laisse, tu l'as dit, circuler des produits dans la nature, au moins d'employés, parce qu'il faut, même si on triait sur le volet, puisse les bêta-tester sur le terrain. Alors tu as évoqué l'épisode de l'iPhone 4, qui il y a quelques années avait été oublié dans un bar. Moi je ne crois pas que ce soit volontaire, crois-moi, c'était plutôt un accident. Mais passons, parce que c'était tellement énorme à l'époque, ça ne faisait vraiment pas les affaires d'Apple. Bref, et plus récemment, selon Bloomberg, Apple aurait ainsi renié ses plus hauts principes en laissant ses propres employés ramener des prototypes de matériel à la maison pour pouvoir les tester. Par contre, ce serait plus compliqué au jour le jour, Aurélien, pour suivre la mise en place de la production, de la conception avec les usines en Chine. Et selon toujours The Information, le site, eh bien, il faudrait faire à longueur de journée des vidéoconférences, envoi de photos pour vérifier que les directives ont bien été suivies, puisque les responsables d'Apple ne peuvent plus se rendre en Chine pour contrôler sur le terrain. Voilà. Et ils auraient même été jusqu'à adopter un système de mode décalé pour s'adapter au décalage horaire de la Chine et être en phase, un peu comme les 3-8 dans le secteur automobile, toujours être en phase avec l'outil de production. Et il y a un risque là, Aurélien, quand on prend de la distance comme ça et qu'on est obligé finalement, on n'a plus ce contrôle qualité qui est propre à Apple, et laisser plus de liberté à ses fournisseurs de composants et ses intégrateurs, c'est qu'il y ait un défaut mineur et qui retarde la production, voire pire, entacherait la réputation de la marque, Aurélien.
Alors oui, effectivement, c'est le problème de la situation, c'est que cette situation de coronavirus et de confinement nous rappelle que, bien sûr, on a le digital, mais que voilà, il faut aussi pouvoir se réunir, se voir, et dans des lieux adaptés. Et là, Apple est confronté à une situation où, effectivement, ils ne peuvent plus faire comme avant. Et donc, ils sont obligés un petit peu d'inventer, à mon avis, des plans B pour, effectivement, malgré tout, continuer à finir le développement de leurs produits, à tester les prototypes. Et toute la difficulté pour eux, ça va être de faire en sorte, effectivement, que le produit développé soit d'une qualité irréprochable comme auparavant et qu'il n'ait pas de bugs, parce qu'évidemment, c'est ça qu'il s'agit d'éviter. C'est là où on doit faire un arbitrage d'un point de vue opérationnel. Il y a l'arbitrage avec la qualité et l'arbitrage avec le temps. Et c'est, entre guillemets, gagner la course contre la montre sans impacter la qualité du produit. C'est ça qu'ils doivent réussir à faire, et tout en évitant, et on l'a bien compris, hein, la divulgation d'informations autour des nouveaux produits, parce que effectivement ces informations sont stratégiques. Donc c'est quand même quelque chose qui est loin d'être simple dans une situation de télétravail généralisé.
Ouais, et on a vu, Stéphane, que effectivement, je ne sais pas si tu as lu l'article de The Information qui affirme que les employés ont désormais plus accès aux labos, hein, donc les labos de prototypage. Tu étais là avec moi lorsqu'on a fait l'émission avec Jean-Louis Fréchin, le designer, qui nous expliquait que la force d'Apple, c'est justement d'avoir des solutions de prototypage extrêmement avancées. C'est presque de la pré-industrialisation. Donc on peut quasiment sortir le produit fini depuis les labos. Là, ça risque vraiment de poser des problèmes à Apple dans les mois qui viennent.
Peut-être, mais bon, de toute façon, dans cette logique, on sera le prochain chapitre par rapport au prochain produit qu'on attendra pour la rentrée. Mais il faut vraiment être un grand voyant et un très grand visionnaire pour savoir comment les choses vont se passer exactement. Tous les produits qui sont attendus d'ici la fin de l'année vont être livrés en temps et en heure, vont être produits en quantité suffisante. Je crois que Laurent voulait dire un petit mot juste après Aurélien.
Ouais, Laurent.
Oui, je voulais juste rajouter. Oui, je reviens juste un petit peu en arrière, mais il ne faut pas oublier que Apple dépense 150 millions de dollars chez United Airlines tous les ans. 25% de ces 150 millions de dollars sont utilisés sur la ligne San Francisco-Shanghai, et que chaque jour, ils achetaient 50 places de business chaque jour qui existait entre San Francisco et Shanghai. C'est-à-dire sur chaque vol, pour pouvoir être tranquille en business, pour pouvoir voyager confiné et entretenir le secret, pouvoir travailler sur cette destination. Donc c'est tu imagines l'impact que ça a aujourd'hui, le fait de ne plus pouvoir aller en Chine, de ne plus pouvoir quitter les États-Unis quand même. 5 places par jour entre San Francisco et Shanghai.
Ouais, encore une fois, selon le site de The Information, il n'y aurait pas à ce jour, malgré la relative improvisation, mais comme beaucoup d'entreprises, j'imagine, pour promouvoir le télétravail, comme l'expliquait Aurélien à l'instant, il n'y aurait pas encore signe de ralentissement en matière d'objectifs de vente et aussi de rendre disponibles des produits. Encore une fois, l'enjeu, pour rappel, est sur le plus long terme, c'est la rentrée, l'arrivée de l'iPhone 12. Est-ce que la mécanique bien huilée d'Apple risque de se gripper, on en parle, sans jeu de mots, dans ce prochain chapitre. Alors l'iPhone 12 va-t-il être reporté? Apple va-t-il pouvoir sortir en septembre prochain l'iPhone 12, surtout qu'il devrait proposer cette fois non pas un téléphone avec juste quelques mises à jour comme les trois dernières générations d'iPhone 10, 10S et 11. Là, c'est un tout nouveau design qu'on attend. Donc c'est tout un nouveau process d'industrialisation, de contrôle qualité qui va être mis en œuvre. Pour autant, je ne sais pas qui veut prendre la parole, Aurélien ou Laurent, ce ne sera pas la première fois qu'Apple est en retard. C'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans. Hein.
C'est vrai. Après, la situation aujourd'hui est qu'en Chine, les usines repartent. Donc, ce que je pense qu'Apple est en train d'espérer, c'est qu'on sorte du confinement et que la crise ne soit pas trop violente, économiquement parlant, pour qu'il y ait un redémarrage. Mais le risque serait qu'ils arrivent à produire les iPhones avec les usines qui fonctionnent en Chine et que le marché soit broken, cassé économiquement, et que derrière, les gens ils pensent à autre chose qu'à acheter un nouveau téléphone.
Quand on voit comment Apple a réussi à produire ses iPad Pro et ses MacBook Air malgré le coronavirus, on peut penser que ce qui est prévu en septembre est déjà prêt en matière de prototypage, Aurélien, et qu'il travaille très très en amont. Hein.
Alors moi, je n'ai pas d'informations de l'intérieur, mais c'est sûr que de toute façon, les prototypages interviennent en amont. Mais je suis assez d'accord avec Laurent. Au fond, il y a deux questions. Il y a la question, est-ce qu'on peut le faire, et d'un point de vue logistique et supply chain. Et puis, il y a la question, entre guillemets, marketing, liée au marché, à la demande. Aujourd'hui, qui peut dire ce que sera la situation économique en septembre dans le monde? Qui peut dire si on pourra à nouveau voyager et prendre l'avion? j'en sais rien. Donc, forcément, dans ce contexte-là, Apple, mais comme toutes les entreprises mondialisées, va avoir à faire face aux turbulences économiques qui arrivent devant nous.
Ouais, et ses concurrents également. Effectivement, il y a beaucoup d'inconnus sur le long terme. Et c'est vrai que le retard d'un iPhone peut sembler un peu, comment dire, presque anecdotique. Et il est vrai, mais c'est le thème principal de cette émission. On parle de tech. Ce sera le mot de la fin. Je vous propose qu'on passe directement à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Aurélien. Est-ce que tu as un petit coup de cœur à nous proposer cette semaine?
Alors moi j'ai un coup de cœur, je pense, qui va être le coup de cœur peut-être de tous les enseignants en école de commerce, comme moi je le suis à Neoma Business School, puisque là effectivement depuis quelques semaines, on est passé en cours par Zoom, et moi j'ai découvert cet outil à cette occasion. Et je dois avouer que j'ai été vraiment très séduit par la qualité de l'outil, la capacité, par exemple, à faire des groupes en ligne, à partager tout un tas de fichiers, à pouvoir recevoir les questions, à voir s'afficher en temps réel les étudiants qui posent des questions. Et c'est vrai que, bien sûr, c'est un outil qui est différent de la pédagogie physique. Au fond, on constate qu'il y avait des outils qui existaient, qu'on aurait pu plus les utiliser, et au fond, voilà, d'être obligé de les utiliser maintenant, c'est aussi quelque chose qui est une opportunité pédagogique, parce que bien sûr, l'enjeu pour nous en tant que pédagogue, c'est d'être capable de reconfigurer totalement son cours, parce que évidemment, il va être différent d'un cours classique et physique.
Oui, et puis accessoirement, tu vois, on aurait été réveillés, nous aussi, de pouvoir utiliser Zoom pour, dans le cadre d'On refait le Mac, parce qu'il offre en plus une meilleure qualité d'image que Skype qu'on utilise pour faire cette émission. Mais Skype est le seul, malheureusement, système de visioconférence qui soit typé pour les régies, donc qui nous permet de récupérer le flux individuel de chaque intervenant et ensuite les mixer via notre mélangeur qui est en Normandie, chez notre ami François qui réalise l'émission au moment où je vous parle. On est aussi de mon mode délocalisé, nous aussi. Et malheureusement, on a tout essayé cette semaine pour le faire fonctionner avec nos mélangeurs, mais c'est hélas pas compatible. Et on aurait pu vous proposer une qualité d'image bien meilleure. Please, monsieur j'ai oublié le nom, aidez-moi, le nom du logiciel de vidéoconférence de
Zoom.
De Zoom, voilà. Développez une solution NDI, compatible NDI de votre elle va faire un carton chez tous les vidéastes professionnels ou amateurs. Laurent, de ton côté.
En mode confiné, il faut s'occuper des enfants et en fait, du coup, une imprimante 3D, je peux vous assurer que c'est un super objet. D'abord parce que vous pouvez faire imprimer les objets très lentement et du coup, il y a un côté un peu captif à voir l'objet se créer. Et du coup, finalement, aujourd'hui, pour 200-300 euros, vous avez la possibilité d'avoir une imprimante livrée chez vous avec du fil. Vous allez sur Internet récupérer, vous n'avez même pas besoin de créer les objets. Vous allez, il y a des catalogues entiers d'objets et c'est un super sujet d'occupation, y compris créatif. Mon fils avait un sujet sur le cœur et du coup on a créé un cœur pour qu'il imagine à quoi ça ressemblait dedans et tout ça, donc voilà, je trouvais que c'était en mode confiné un bel objet.
Ouais, je vous invite à aller voir l'émission qu'on a fait, je crois, il y a un an, jour pour jour, sur l'impression 3D. Vous aurez toutes les infos pour bien choisir. De ton côté, Stéphane, ton coup de cœur cette semaine?
C'est une mini-série sur Netflix qui s'appelle Unorthodox. C'est 4 épisodes, 50-52 minutes, qui racontent l'histoire d'une... C'est une mini-série allemande qui se passe à Berlin. Et ça raconte l'histoire d'une femme qui quitte... épris de liberté, qui quitte le milieu où elle a grandi, qui est le milieu des juifs très religieux de Brooklyn. Et c'est franchement... passionnant, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas. Moi, je pensais connaître ma religion, je la connaissais pas vraiment en fait. Et c'est fantastique. Et vu que l'on ne doit pas passer quand même trop de temps derrière nos écrans, c'est le fait qu'il n'y ait que 4 épisodes.
Ah oui, c'est bien.
Voilà. Et de toute façon, la semaine prochaine, si je participe à l'émission, il y aura un autre coup de cœur de quelqu'un qu'on aime bien. Ce sera une autre série. Je vais pas trop en parler, mais. Ouais. Mais en tout cas, regardez cette série Unorthodox, vous passerez un moment mais fabuleux.
Oui, et puis ne ratez pas le Bureau des légendes, bien sûr, la semaine prochaine, on en reparlera la semaine prochaine.
C'est ce que j'allais dire.
Allez, de mon côté, on revient à la tech, c'est la mise à jour que nous promet Sonos, ça s'appelle la Sonos S2, hein, c'est une indiscrétion du site The Verge, qui a eu bruit d'un nouveau firmware, une nouvelle app qui devrait arriver dans l'écosystème Sonos, qui serait attendue pour le mois de juin, j'espère au moment quand d'ici là on sera largement plus en confinement, on verra. Son nom donc de cette nouvelle version de l'application s'appellerait, Sonos s'appellerait la S2, elle ouvrirait les enceintes récentes enfin de la marque au son et à la musique haute résolution qui manquait beaucoup à l'environnement et l'écosystème Sonos. Et si vous avez une barre de son, comme c'est le cas de mon ami Stéphane, elle serait désormais compatible avec le Dolby Atmos qui fait toujours plaisir. Elle améliore également la gestion des pièces qui est vrai quelque peu brouillonne, c'est moins qu'on puisse dire. Moi ce que je souhaite tout simplement, si les gens de Sonos nous entendent, moi qui en suis vraiment fan, c'est que tout simplement lorsqu'on est dans une pièce, l'app détecte automatiquement dans quelle pièce, avec la localisation, avec le Wi-Fi et le Bluetooth, dans quelle pièce on est automatiquement, et il nous propose de régler le volume sur l'enceinte qui est la plus proche, pas l'enceinte qui est de l'autre bout de dans la chambre à l'opposé. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un petit peu d'intelligence artificielle. Laurent, il faut que tu fasses quelque chose. Bref, je précise que les enceintes relativement récentes pourront avoir accès à cette fonction-là, parce que c'est vrai que les plus anciennes ne pourront pas en bénéficier de cette mise à jour. Alors ça a créé beaucoup de buzz sur Internet au début du mois de janvier, en marge du CES, parce qu'effectivement, de manière un peu maladroite, Sonos avait annoncé l'abandon du support de ces produits-là. En fait, non, ils n'abandonnent pas ces produits-là et ils continueront à développer le firmware, mais ils ne seront pas compatibles avec une nouvelle fonctionnalité. Alors, ce n'est pas de l'obsolescence programmée. Et moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse suspecter Sonos d'obsolescence programmée, parce que moi, j'ai des enceintes qui ont plus de 10 ans et ça fonctionne encore nickel. Et croyez-moi, ce n'est pas le cas de toutes les marques d'audio aujourd'hui. Lorsque vous voulez faire des enceintes connectées, surtout que la plupart ont des batteries qu'il faut les jeter à la poubelle. Voilà, donc simplement ils ont des composants et ces composants ils vieillissent et ils n'ont pas forcément la puissance nécessaire et le hardware nécessaire pour bénéficier des dernières fonctionnalités. Voilà, j'espère en tout cas que ça arrivera vite et qu'on sortira vite de cette cave nous aussi. Voilà, c'est la fin de ce 369e épisode déjà d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi, merci messieurs de s'être rendu disponible et désolé quelque peu de cette qualité vidéo assez moyenne ce soir, c'est le moins qu'on puisse dire. À la semaine prochaine messieurs.
Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci Aurélien et bon séjour en Normandie. Je vous donne rendez-vous quant à vous la semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Comme on a un peu de temps, on va essayer de vous diffuser de temps en temps, tous les soirs, de vous faire des petits directs et diffuser le best-of des meilleures émissions d'On refait le Mac. On se retrouvera tous les soirs à 21h et vous aurez le meilleur d'On refait le Mac durant les jours qui viennent si vous avez du temps à perdre. Et je crois que vous êtes nombreux dans ce cas-là. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.